Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Peut-être que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Maria Callas est née à Manhattan en 1923 dans une famille d'immigrés grecs. C'est sa mère qui se rend compte du talent extraordinaire de sa fille et qui l'incite à prendre des cours de piano et de chant. Mais lorsque cette femme divorce, elle décide de retourner au pays avec ses deux filles. Maria a 13 ans. Elle a un destin extraordinaire qui l'attend. Elle entre donc au Conservatoire National Grec. Elle poursuit ses études au Conservatoire d'Athènes. C'est justement là qu'elle fait ses débuts professionnels à l'Opéra National Grec. Cela dit, c'est en Italie, à Florence, qu'elle chante pour la toute première fois ce rôle qui restera pour toujours associé à son nom, la Norma de Bellini. Notre invité, lui aussi né de parents grecs, a choisi de démarrer avec cet air Casta Diva, cette prière à la lune chantée par la prêtresse Norma, Norma qui est tiraillée entre le devoir et son amour pour son amant Pollione. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en studio le journaliste et photographe Nikos Aliagas. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Saskia, merci de m'accueillir.
Avec un immense plaisir. Et puis, quel plaisir d'écouter Maria Callas. C'est dingue, on ne s'en lasse jamais.
Oui, figure tragique, à la fois dans son expression artistique et en même temps dans sa vie, dans son passage. Il y a de la gravité, même dans ses respirations, même dans ses silences, dans ses photos. À chaque fois que je passe depuis l'enfance, avenue Georges Mandel au 36, j'ai une pensée pour elle et je l'imagine à la fenêtre, rêveuse, abandonnée, trahie, et dans sa solitude avant de rendre l'âme ici à Paris. Elle qui n'est pas née en Grèce d'ailleurs, elle est née à New York je crois.
Absolument, à Manhattan.
Et toute sa vie elle a porté à la fois le rêve d'Ulysse, puisqu'on en parle, c'est-à-dire le retour à quelque chose, à un pays qui était celui de ses parents, très grec et en même temps une cosmopolite, une âme. Et elle me touche, sa vie, elle me touche et effectivement la Casta Diva est exquise, que dire de plus ?
Que dire de plus ? Mais Ulysse, alors on va quand même préciser, c'est une partie du titre, le spleen d'Ulysse, de ce très beau livre de photographie que vous faites paraître aux éditions de La Martinière dont on va parler. Mais j'aimerais qu'on reste un petit moment, puisqu'on parle de photos justement, avec Maria Callas. Je vous ai glissé cette photographie célèbre, prise par Cecil Beaton en 1956. Qu'est-ce que vous voyez ? Pourriez-vous nous la décrire, Nico Saliegas ?
C'est une photo en noir et blanc, cadrée effectivement dans un format carré. Elle porte son visage dans ses mains. Il y a quelque chose d'assez hiératique dans sa façon de nous regarder. On pourrait croire qu'elle nous prend de haut alors qu'elle est en fait tout simplement bas. Elle pose ses mains sur son visage comme si elle portait toute la tragédie de sa vie, de son destin. Elle n'est pas dans la lumière dont elle est fière, elle est au contraire comme une femme qui revient des ténèbres. Elle est comme Orphée qui se retourne trop tôt et qui perd Eurydice. Elle est une femme seule, elle est une femme sublime. Elle a un profil grec, elle a les traits fins et en même temps indiscutable, elle ne négocie pas, elle ne veut pas faire la belle, elle est sublime. Et je ressens surtout sa solitude.
Je crois connaître votre réponse à la question que je vais vous poser, Nico Saliegas, mais auriez-vous aimé la photographier ? Et si oui, j'imagine que c'est le cas, ou comment ? Quelle position ?
J'aurais aimé la photographier dans le quartier, peut-être de sa famille à Athènes, là où elle est.
Vous connaissez ce quartier ?
Non, mais je crois qu'elle venait du quartier nord d'Athènes, la famille Kalogeropoulou. En fait, la Callas est née Kalogeropoulos. Et elle a fait... Bon, Kalogeropoulos, c'était un peu compliqué, mais elle a tout changé dans sa vie. Elle a changé son apparence, elle a changé son nom, elle a changé son rapport même au corps, à l'amour. Elle est devenue ce que voulait peut-être sa famille, c'est-à-dire... qu'il y ait une fille dans la famille qui soit reconnue et qui soit une diva. Mais je ne suis pas certain qu'au fond d'elle, la petite fille rêvait de ce qu'elle était devenue. Je ne suis pas certain qu'elle s'est alignée finalement en chemin avec tout ce qu'elle a appris et tout ce qu'elle a découvert, touché aux quatre coins du monde. J'en suis pas certain.
C'est un destin qui parle au petit Nikos que vous étiez, Nikos Aliagas.
Certainement. Certainement, d'abord par fierté, on va dire, je dirais pas ethnique, c'est un grand mot, mais de voir quelqu'un qui vient de rien et qui fait un chemin extraordinaire, même dans la douleur, parce que les sacrifices pour arriver à un tel niveau d'exigence artistique sont considérables. Et en même temps, ce qu'elle vit dans la lumière face à des gens qui pourraient déchirer leurs vêtements pour elle, à la fois positivement, mais il y a eu aussi, il ne faut pas oublier, des moments difficiles où on l'a hué, on l'a traité de tigresse, capricieuse et de diva. Elle était sur un fil. Mais dans les deux cas, je pense qu'elle n'était pas concernée ni par ceux qui l'adulaient, ni par ceux qui la détestaient. Elle devait faire son chemin, juste son chemin.
Thank you.
Une autre voix, celle de la clarinette ici, dans cet extrait de l'Adagio de ce concerto de Mozart joué par Martin Frust. La Sinfonietta d'Amsterdam, Peter Oudjian, à la direction, votre choix, Nikos Aliagas.
Mozart. D'abord parce que la clarinette que je connaissais avant de découvrir ce concerto de Mozart...
Vous en avez joué ?
Jamais, mais celle que je connaissais, c'était celle des musiciens gitans dans les Balkans qui accompagnaient les fêtes grecques l'été dans le village paternel. Donc pour moi, la clarinette, ça n'était qu'un son qu'on appelle communément ethnique, en tous les cas, un son des Balkans. Et puis je découvre un jour, dans la discothèque de Châtenay-Malabry, de la mairie de Châtenay-Malabry, à l'époque on n'avait pas de lecteur vinyle, et j'allais à la discothèque, effectivement, emprunter un disque, l'écouter sur place et repartir, je découvre Mozart. Avec ce concerto, je suis un gamin totalement profane, je ne connais pas grand-chose à la musique classique, et l'émotion qui m'emporte, l'imaginaire qui se met en route, me crée encore ce même sentiment de nouveauté dans un espace-temps qui était celui de mon adolescence, en fait.
Quelle histoire vous êtes-vous raconté alors à la première écoute de ce concerto ?
C'était comme un tableau de peinture, en fait, avec des couleurs pas chatoyantes, mais subtiles, comme un tableau presque hollandais entre quelque chose d'assez diaphane dans un brouillard matinal et puis une lumière au fond, comme une torche, comme quelqu'un qui apporte une bonne nouvelle. Il y a quelque chose de foussement enfantin et simple pour moi chez Mozart. Et je parle en tant que profane, je ne suis pas un spécialiste de musique classique. Pour autant, la dextérité et le génie de ce mariage de notes et en même temps de chemin difficile à parcourir fait que la clarinette est devenue presque un souffle dans mon oreille, en fait.
Donc c'est un concerto qui a été écrit en 1791, qui est l'histoire d'amour entre Mozart et cet instrument. Il avait rencontré un clarinettiste extraordinaire, hein, Anton Stadler, qui était membre de l'orchestre de Vienne. Ils étaient frères au sein de la même loge maçonnique.
Oui.
Donc dans l'esprit de Mozart, la clarinette est devenue l'instrument de la fraternité.
Mais je ne le savais pas, mais c'est logique. Car la clarinette, dans les fêtes traditionnelles, je ne parle pas dans les salons de musique classique à l'époque, était un vecteur d'invitation au partage, puisque les danses se faisaient ensemble et la clarinette ne faisait qu'accompagner le souffle et le mouvement et la lecture du corps, en fait, tout simplement.
Et à travers
la fraternité.
J'ai envie de revenir sur votre livre qui sort aux éditions de La Martinière, Le spleen d'Ulysse avec ses photos en noir et blanc. Là aussi, c'est une sorte d'invitation au partage, au vécu de ces personnes que vous avez photographiées à travers leur regard.
Oui, parce qu'il y a un regard que j'interprète comme de façon très arbitraire, comme celui du spleen d'Ulysse, qui est un regard qui est toujours en manque. Revenir d'abord chez soi, Ulysse veut revenir à Ithaque après avoir fait la guerre à Troie, et donc rencontrer des monstres, des femmes, de nouvelles contrées, et ne jamais rompre le fil avec son île d'origine, Ithaque, revenir. Et en même temps, dans la photographie, je cherche toujours à comprendre la solitude existentielle d'un être, qu'il soit en Amérique latine, dans la forêt amazonienne, ou qu'il soit dans un village du Péloponnèse ou chez moi.
On en revient à Maria Callas, ce que vous évoquez.
De la Callas, oui, c'est le chemin, en fait, qui m'intéresse. Et en quoi tu es aligné à toi-même, en quoi tu portes l'exil de quelqu'un d'autre, souvent aussi de tes ancêtres. On n'est pas dans la vie que l'on croit choisir par hasard. On a aussi tous ceux d'avant. Et dans la photographie, c'est pas ce que je comprends qui m'intéresse, c'est ce que je devine ou j'imagine, comme dans la musique.
France Musique, Saskia Deville. Thank you.
L'agnosienne numéro 1 d'Eric Satie, ici, dans cet arrangement pour guitare choisi par notre invité Nikos Aliagas, à l'interprétation Pablo Sáenz Aliagas, que vous avez découvert un petit peu par hasard.
Il est bouleversant, non?
Ah, c'est magnifique. Franchement... Mais on voyage, en fait.
Oui, et puis on est dans un autre monde, toujours dans ces notes, dans ces bémols de Satie. On est toujours dans quelque chose à la fois de révolu, Et en même temps, comme une promesse de quelque chose qui exhale encore, dont il exhale encore un parfum. C'est pour moi, c'est très 19e Charles Cros, la fin du romantisme avant l'arrivée d'un 20e siècle qui va tout uniformiser avec ses machines. Il y a quelque chose de triste, mais cette tristesse, elle me rend curieusement heureux. J'ai longtemps écouté Satie, évidemment au piano, on est dans les gnossiennes. Je découvre par hasard, effectivement, sur une plateforme de musique, une version autre, à cordes, et je me dis souvent, c'est souvent des choses commerciales, en fait pas du tout. La subtilité qu'il arrive à transcender à travers son toucher de cordes, ben, je l'ai aussi dans quelque chose de plus tranché, dans la version piano, mais c'est subtil, c'est magnifique, Satie.
Absolument, une œuvre épurée, simple. Alors, la racine grecque de gnossienne, c'est connaître.
C'est la connaissance.
Donc, c'est une œuvre qui symbolise aussi, en quelque sorte, le chemin intérieur. Revenons-en à toutes ces magnifiques photos que vous nous proposez dans le livre, Nikos Aliagas. Comment choisissez-vous les titres qui accompagnent vos photos?
Un peu par hasard. D'abord, je photographie sans même savoir si un jour ces images sont appelées à être partagées ou exposées. Souvent, les réseaux sociaux me donnent une tendance, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. On ne fait pas de la photo pour avoir des likes. Moi, j'ai fait des photographies très vite, pas pour juger le monde, c'est l'homme qui juge la photographie. Pour exprimer des choses qui n'intéressaient personne et pour garder encore un peu vivantes certaines images qui pour moi, même si elles étaient anodines pour les adultes, étaient significatives ou représentatives de quelque chose. Donc la photo, c'est d'abord un lâcher-prise absolu. Je prends mon appareil, je ne sais pas pourquoi je sors, je ne sais pas où je vais et... C'est Nicolas Bouvier qui dit que les plus belles photos sont celles qu'on a trouvées en chemin alors qu'on partait en faire d'autres. Et le titre, c'est pareil. C'est-à-dire que lorsque le département de Seine-Maritime m'a proposé de trouver un thème et d'essayer d'explorer des pistes pour faire une exposition...
Exposition
qui
est à découvrir à l'abbaye de Jumièges jusqu'au 31 octobre.
Exact. Et je me suis dit, bon, je sais pas trop. Et puis, j'ai essayé de ressentir... Voilà, ce que me disaient les pierres, ce que certains appellent des ruines à Jumièges. Moi, j'ai pas vu de ruines. J'ai vu une partie de notre ADN. Et là, je me suis dit, c'est le voyage. C'est comme un palimpseste, on va dire, de pensée, de toutes ces traces superposées, comme ça, qui nous disent que nous-mêmes, notre histoire, elle ne dit pas grand-chose devant la résistance de ces pierres. Et je me dis, finalement, c'est comme si on sait d'ores et déjà que le game ou le jeu, il est fini. Donc, si on est des Ulysses de notre propre vie, on ne peut être que mélancolique. Même si le spleen n'est pas la mélancolie, c'est la nostalgie de quelque chose, en fait.
Laissez-vous transpercer, justement, par ces regards que vous avez captés, Nikos Aliagas, dans ces photographies. Et puis, on parlait de lumière tout à l'heure, ce qui convient aussi absolument à la musique qui nous illumine et qui nous accompagne. Une lumière écrasante, qui nous saisit en quelque sorte, qui revient aussi, qui est quand même un élément récurrent.
C'est une guerre permanente entre l'ombre et la lumière. Mais s'il n'y avait pas d'ombre, comment aurions-nous pu apprécier la lumière? C'est cet aller-retour permanent, cette absence de radicalité, en fait. Parce que la lumière et l'ombre jouent pour nous dire qu'il y a des possibilités infinies. Prenez un photographe, mettez-le devant un mur. Prenez un million de photographes, mettez-le devant ce même mur. Aucune photo ne sera identique. Et en fait, c'est cela le jeu de l'ombre et de la lumière. C'est notre modeste témoignage. C'est un témoignage, c'est pas de l'art pour moi, c'est pas des certitudes, c'est juste un petit témoignage. Notre témoignage dans le passage, quoi.
Et le vôtre est à découvrir donc dans ce livre, Le spleen d'Ulysse, qui paraît aux éditions de La Martinière. ou aussi évidemment dans le cadre de cette exposition qui est proposée à l'abbaye de Jumièges jusqu'au 31 octobre. Autre exposition, si jamais vous avez le bonheur de pouvoir vous rendre en Italie, à Venise, vous proposez également une autre exposition.
Sur le Grand Canal, ça s'appelle « Regard vénitien ». Et je suis allé photographier tous ceux dont Venise ne parle pas. En fait, les touristes vont tous photographier les mêmes choses ou les mêmes édifices. Je suis allé voir les Vénitiens, les artisans, ceux qui n'aiment pas justement la lumière. Elles sont exposées, il y a près de 200 photos exposées à la Fondazione dell'Albero d'Oro, au Palazzo Vendramin Grimani, c'est dans le Campo de San Polo, et c'est juste splendide l'endroit. Et c'est une expo qui va aller jusqu'à fin novembre.
Fin novembre, exactement. On va mettre toutes les informations sur la page de l'émission sur francemusique.fr. On va terminer cette émission avec un violoncelliste que vous avez déjà photographié.
Ah,
Gauthier Capuçon, dans cette Xardas de Vittorio Monti, accompagné ici par Kim Bernard. Merci beaucoup, Nikos Aliagas, d'être venu dans cette émission.
Merci, Saskia.
Et merci à toute l'équipe, Dimitris Capolan, Maud Nouri, Julia Macarez et Bastien Varigaud.
À réécouter sur francemusique.fr.